MCI TV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans l'émission « Bonjour chez vous ». Veux-tu vivre une vraie transformation ? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Hier, on a introduit le sujet. On vous a encouragé à croire que votre vie pouvait changer. Et nous avons encore avec nous notre invité, Denis Morissette. Bonjour Denis.
Bonjour Yveline.
Merci encore pour hier. Quelle bénédiction, c'était super.
C'était une bénédiction pour moi aussi.
Génial.
De pouvoir partager sur ce sujet.
On est vraiment contents. Hello Nadine.
Hello, ça va?
Oui, très très bien. Aujourd'hui, donc, on va parler de cette transformation. Alors hier, on a vu que Dieu peut le faire vraiment. Pour autant qu'on veuille, pour autant qu'on se laisse faire, pour autant qu'on ne mette pas de la résistance, ben aujourd'hui, on est tous convaincus, on veut changer, on veut vivre cette transformation et on est prêt à se soumettre. Et on va voir, comment on peut la vivre, cette vraie transformation. Avec toi, Denis, donc aujourd'hui, tu vas répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question » tout à l'heure. C'est Christelle du Congo RDC. On salue tous ceux qui nous suivent du Congo et on sait que vous êtes nombreux. Donc quand je salue, je pense qu'une main ne me suffit pas. Allez, je mets les deux.
Je rajoute les miennes.
On vous salue. Alors, Christelle a posé la question, comment me débarrasser de la culpabilité de mes erreurs passées? C'est la question à laquelle tu répondras tout à l'heure. Une bonne question, oui. Ouais. Donc, tu nous répondras une bonne réponse tout à l'heure.
Je vais essayer.
Et dans la rubrique culture et médias, je vous l'ai dit hier, Nadine, tu vas présenter le livre de Denis Morissette, le bébé qui vient de sortir. Ouais.
Le tout nouveau bébé, libre, enfin libre. J'aime beaucoup quand on présente des livres et l'auteur est là. Ça nous permet de creuser un peu plus et de savoir un peu plus sur le contenu du livre. Donc, on va présenter ça dans la rubrique culture et médias.
Super. Donc, Denis, si tu es prêt, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour.
Nous abordons le thème de la transformation, du changement depuis quelques émissions et rien de tel qu'une histoire, un récit du Nouveau Testament, d'une rencontre entre Jésus et un personnage que je dirais assez méprisant et assez méprisé à l'époque. Son nom, c'est Zachée. Et si vous me permettez, je vais juste lire le texte pour qu'on puisse un peu comprendre ce qui se passe, ce qui se trame dans cette histoire. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous ceux autour murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est un super texte. On pourrait s'interroger, pourquoi a-t-il plu au Saint-Esprit de sauvegarder cette histoire? Parce qu'on sait que Jésus a eu des rencontres avec plusieurs personnes tout au long de ses 3 années et demie de ministère. Il y a différentes raisons. Une qui est particulière, c'est que c'est une représentation de Dieu en Jésus qui va chez un homme pécheur. Et lorsque la foule réagit ainsi au fait que Jésus va loger chez Zachée, eux sont prisonniers d'une façon de voir Dieu comme étant un Dieu qui punit, un Dieu qui juge, un Dieu qui rejette. Et Jésus arrive tout bonnement comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Zachée est monté sur l'arbre pour voir Jésus, mais en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est Jésus qui l'a vu. Et c'est intéressant comme image aussi. Et en second lieu, je crois que le récit a été retenu, conservé, parce que c'est une histoire de transformation quasi radicale. Trois clés importantes que je retire de ce texte. Il y en a beaucoup plus, mais il y en a trois sur lesquelles je veux centrer mon propos d'aujourd'hui. La première clé, c'est une conviction. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, qu'elle était petit détail. Je me suis posé la question, et c'est un peu mon travail dans la vie, aussi de me poser la question, pourquoi les choses sont comme ça? Qu'est-ce qui a poussé cet homme riche, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'avoir, à ainsi s'humilier devant les gens pour monter sur cet arbre, parce qu'il était petite taille, pour voir Jésus? Ma conviction est qu'il y avait une conviction en lui qui a commencé à émerger. La conviction, c'est une prise de conscience intérieure et viscérale de son état et de sa condition. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi et j'en prends conscience et là, j'ai une occasion de changer. Toute conviction va naître de deux éléments importants. Premièrement, la reconnaissance de son état. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Et il faut que ça change. Je ne peux plus rester dans cet état-là. Et le deuxième aspect de la conviction, c'est l'espoir qui est généré par la perspective du changement. Tout peut changer. Je peux changer. Le changement est possible. Dieu peut me changer, me transformer. Et ça, ça devient quelque chose qui, intérieurement, progressivement, à peu, commence à grandir à l'intérieur. Donc, c'est un travail qui se passe dans le cœur de Zachée. Lorsqu'il entend parler de Jésus, bien sûr, Jésus était un phénomène social à son époque, hein, parce que les gens entendaient parler de lui, et la foule s'accumulait. Et lui, en sachant que Jésus passe par là, quelque chose commence à grandir à l'intérieur de lui, la perspective de changer de vie, qui doit avoir autre chose dans la vie que ce que je vis, même si je suis riche, même si j'ai du pouvoir, même si tout le monde me craint. Deuxième élément intéressant que nous révèle cette histoire, on la voit dans cette portion du texte qui dit « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. » Zachée est immensément riche. De toucher à cet aspect de sa vie, et remarquons que Jésus ne lui a rien demandé. Jésus ne l'a pas condamné, ne l'a pas questionné. Jésus, à ce stade-ci, est un personnage assez passif dans la relation. Tout se joue dans la personne de Zachée. Mm-hmm. En fait, Jésus va dire une seule parole à la fin de cette interaction-là. Et en fait, il reconnaît et confesse quelque chose. Dès le début de l'Église primitive, la notion de confession était fondamentale. Mm-hmm. Les gens, on le voit dans les Actes des apôtres, les gens allaient confesser. OK? J'aimerais dire que dans la vie moderne, la notion de confession, c'est quelque chose qu'on voit pas très, très souvent. Les gens, on connaît tous, il s'agit d'être chrétien depuis au moins 24 heures pour découvrir que parfois les gens vont dire, si jamais j'ai dit quelque chose, si jamais je t'ai blessé, je te demande pardon. Mais on est dans le flou, là. Mm-hmm. On est dans quelque chose de tellement large qu'on sait pas de quoi il parle, OK? La confession, c'est un acte, premièrement, relationnel. Mm-hmm. J'avoue à quelqu'un quelque chose, OK? Que ça soit dans le cadre du mariage, que ça soit dans le cadre de conflit, avec quelqu'un et tout ça, et aussi avec le Seigneur. C'est pas juste reconnaître aussi avoir fait des erreurs, c'est les avouer. Mm-hmm. OK? Et ça, c'est difficile. Tous ceux qui ont des enfants, on est tous confrontés à des choses comme ça. Qui a fait ça, là? Qui a brisé, OK? Puis personne, là, c'est comme si les enfants diraient, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. On peut savoir. C'est difficile d'avouer. Moi, je le vois dans les mariages auxquels j'ai aidé les gens, juste de dire les choses, de reconnaître, d'avouer quelque chose, de confesser. Et le mot confesser qu'on retrouve dans ce texte, c'est le mot grec homologeo, qui a donné naissance en français au terme homologué. Mm. Donc, littéralement, une confession, c'est une entente bipartite. OK? Je reconnais que j'ai eu tort et l'autre personne reconnaît que j'ai eu tort aussi. C'est ça le sens de la confession. Donc, je le fais avec le Seigneur, mais je le fais aussi avec la personne quand la personne est offensée, que je prends conscience que je l'ai offensée. Ici, dans le texte, il confesse quelque chose. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mm-hmm. Mais là, il se mouille en parole. Il a exprimé. Là, il va devoir vivre avec les conséquences. Et c'est ça l'effet de la confession aussi. C'est que maintenant que je l'ai dit, je dois assumer tout ça. Je dois aller au bout de ma pensée, au bout de mes paroles, et je dois mettre tout cela en pratique. Voilà pourquoi souvent les gens résistent à la dimension de la confession. Juste un aspect qui me vient à l'esprit. Les gens souvent vont dire, mais je l'ai confessé au Seigneur, ça suffit. Mm. OK? Oui, ça suffit avec le Seigneur dans ta relation avec lui. OK? Dieu va valider un peu le péché ou ce que tu as fait. Mais ça ne change rien dans la vie des gens autour. Je peux confesser, disons que j'ai eu un conflit avec un de mes enfants ou avec mon épouse, je peux le confesser au Seigneur, mais ça ne rétablit pas la relation ou ça ne rétablit pas l'harmonie dans la relation que j'ai avec la personne, peu importe qui elle est. Donc, l'importance d'avouer à une personne, ça demeure quelque chose. Et là, certains vont résister, vont parler du confessionnal. On ne fait pas allusion au confessionnal. Si on fait allusion au fait, et c'est un principe biblique, dans le Nouveau Testament, Épître de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres. Le moyen qu'on a de s'affranchir, c'est de confesser. Et dans l'Épître de Jean, Jean va dire, il est fidèle et juste pour nous purifier de tout ce péché-là. Donc, le problème, c'est pas de pécher ou de ne pas pécher, là, permettez-moi l'expression, c'est de savoir qu'est-ce que je fais lorsque j'ai péché, lorsque j'ai gaffé, lorsque j'ai fait une erreur, ou lorsque j'ai blessé quelqu'un. La réaction spontanée doit être celle de devoir confesser. Et le troisième élément qui m'a frappé, puis en fait, c'est un peu le thème de cette histoire de Zachée, c'est la conversion de Zachée. Et je voudrais juste un peu corriger un peu la perception qu'ont les gens de la conversion. Par exemple, on va parler à un jeune chrétien, on va dire, ah, c'est un nouveau converti. On a l'impression que le travail est terminé. OK? Mais la conversion, c'est beaucoup plus qu'un moment de ta vie où, en fait, on doit toujours se convertir et rester converti. Le sens de conversion ici, c'est le sens de changement. Ça désigne un changement complet, un volte-face, un nouveau parcours qui prend place. Je m'étais trompé de route, je reprends la nouvelle route. C'est ça le sens de conversion. C'est pas juste changer de religion ou changer de point de vue ou changer de façon de concevoir. C'est un changement de vie complet. Et non seulement c'est un changement, mais c'est aussi le résultat qui provient de ce changement. Et je vais vous citer, si vous me permettez, C.S. Lewis, le grand écrivain chrétien anglais, qui a dit « Si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions extérieures d'une personne ou les comportements, alors sa conversion, elle est imaginaire. » OK, c'est pas réel. Et on parle de transformation. La conversion, c'est vraiment la manifestation de cette transformation-là. Il y a des changements, il y a des résultats. Jésus a dit, lorsqu'il a entendu cette réponse de Zachée, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, sans que Jésus lui demande strictement rien. Et si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadruple, Jésus va réagir en disant, le salut est entré dans cette maison. Donc, c'est à partir de la réaction de Zachée, c'est à partir du changement qui prend place, de sa déclaration, que Jésus va arriver à valider ce qui vient de se passer comme expérience. Mais c'est un court texte, hein? C'est un épisode. Bon, on a quelques lignes. Bon, j'imagine que si Jésus a logé chez Zachée, ils ont dû avoir quelques conversations un peu plus approfondies. Ben peut-être pas plus approfondies, parce qu'il y a quelque chose de profond dans tout ça. Je ne dis pas que c'est léger. Mais il y a un constat que Jésus fait. Et j'aimerais dire aux gens, on ne doit pas dire aux gens, je me suis converti, j'ai changé. On doit permettre aux gens de dire, ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as changé. Je ne peux pas penser à la conversion, à ce thème de conversion, sans penser à ma propre conversion originelle en 1975, ça date déjà. J'ai accepté Jésus, là, tellement rempli de sa présence, je suis arrivé à la maison, et ma mère, elle me connaissait, qui peut connaître plus un enfant qu'une maman. Surtout que je lui avais fait vivre une période difficile dans mon adolescence. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Là? Mais rien, maman, il s'est rien passé. Quoi? Je n'osais pas lui dire ce que je vivais. Elle dit, tes yeux ne sont plus pareils. Il y a quelque chose qui a changé. Et moi, je me souviens que tous mes frères autour de moi me disaient, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Là, là c'est fini, là, tes frasques et tout ça. Donc, c'est pas moi qui disais, j'ai changé. C'était l'environnement qui, mon environnement, mon entourage, qui me confirmait que quelque chose s'était passé dans ma vie, qui parfois peut être subtil. Et évidemment, ça a été confirmé après coup dans mes changements de comportement, de voix. J'ai repris ma vie en main, j'ai accepté l'appel de Dieu dans ma vie, et voilà.
Je suis
dans vous aujourd'hui. Mais, c'est ça, et j'insiste sur la notion de changement. Oubliez pas que cette histoire prend place dans un contexte religieux. La société de l'époque, cette communauté de gens tissés serrés. On est dans un univers très religieux. Là. C'est Israël, c'est ces villages et ces villes-là. Mais les gens religieux, reproche à Jésus d'aller loger chez quelqu'un, quand en fait Jésus était justement venu pour sauver, pour transformer, et ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin, c'est les pécheurs qui ont besoin du salut. Mais eux n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils sont encore centrés sur des œuvres, sur une façon de plaire à Dieu. Et tout d'un coup, il y a cet homme-là qui fait un volte-face. J'ose même imaginer que les gens de l'époque ont dû avoir de la difficulté à croire à sa conversion, tout comme les disciples avaient de la difficulté à croire à la conversion de l'apôtre Paul. C'est trop gros, là. C'est pas que celui qui avait du sang dans les mains puisse à ce point-là devenir presque l'apôtre de l'amour. Parce qu'on regarde des textes plus loin, je pense à l'épître de Paul à Philémon, où Paul est plein d'amour pour Onésime, cet esclave qu'il a rencontré en prison. Donc, parfois, c'est tellement gros que c'est inimaginable. Mais c'est ça le christianisme, c'est ça la puissance de transformation de l'Évangile, la puissance de transformation du Seigneur envers les gens. Donc, il y a de l'espoir. Et si parfois, vous vous retrouvez dans une condition en croyant que vous ne pouvez pas changer, si Zachée a pu changer... Sachez que Zachée a changé.
Essayez de le dire.
Et si l'apôtre Paul a changé, il peut changer n'importe quelle personne, que ce soit un dictateur, que ce soit un père de famille, que ce soit peu importe la personne, Dieu est capable de changer.
Amen. Merci, Denis. Tu viens de nous apporter un éclairage complètement nouveau sur l'histoire de Zachée. Mm-hmm. Dans le sens, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément pris le temps d'analyser, de regarder. Merci d'avoir décortiqué cette histoire et de nous montrer que le changement se fait à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés même de profondeur pour amener à ce vrai changement, à cette vraie transformation. Et notre verset du jour aujourd'hui, qui est dans Jean 8, 36, nous dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Et c'est ce que Zachée a vécu. Il y a tellement d'autres exemples dans la parole de Dieu de libération extraordinaire. Et nous croyons, comme l'a dit Denis, que Dieu peut le faire dans vos vies et que vous pouvez être ce Zachée qui vit cette transformation radicale dans vos vies. Et Denis, on revient avec toi, puisqu'on a Christelle du Congo RDC qui nous a posé une très bonne question, tu le disais en début d'émission. Elle a demandé comment se débarrasser de la culpabilité de ses erreurs passées. Et on le sait, peut-être que Zachée même a culpabilisé d'avoir volé autant de personnes. Le texte ne le dit pas.
Le texte ne le dit pas, possible. Mais sûrement qu'il a dû éprouver. Il faut comprendre aussi que la culpabilité n'est pas toujours mauvaise. Mm-hmm. Parfois, elle nous ramène à la conscience des choses qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire et tout ça. Donc, c'est quand même une émotion qui fait partie du registre des émotions de la nature humaine. Oui. Par contre, ici, bien sûr, on fait allusion à une culpabilité qui devient malsaine. Mm-hmm. Il y a ce qu'on appelle une culpabilité qui est toxique, c'est-à-dire qui résiste au pardon, qui résiste à l'affranchissement et tout cela. Et je vais proposer à Christelle 3-4 petits points importants. Premier élément, et je pense que c'est son cas, c'est de prendre conscience de la culpabilité, mais surtout de la comprendre. Qu'est-ce qui se trame dans la culpabilité? La culpabilité provient du fait que nous percevons nos actions, notre état même, parfois il y a des gens qui se sentent coupables d'exister, comme divergent de ce qui est bien, de ce qui est normal. Des gens qui se sentent pas normaux se sentent coupables d'être ce qu'ils sont, ou corrects, ou morales. Et dans ce sens-là, donc, je suis comme en infraction avec une espèce de règle, une loi. Et voilà pourquoi, sans aller dans trop de détails, parfois, si je suis au resto, OK, et que je mets mes coudes sur la table du restaurant, je dis « Oh, je te demande pardon, maman. » Là, j'enlève mes coudes sur la table. Pourquoi? Parce que c'est une série d'injonctions, de politesse, de bienséance et tout ça. Et c'est une règle, maintenant. Oui. Est-ce que je suis en état de péché? Non. Peut-être aux yeux de ma mère, que Dieu la bénisse. Mais c'est pas grave. Donc, en fait, pourquoi je raconte cela? Parce qu'il y a deux types de culpabilité. Une culpabilité qui est très, très, très subjective. Mm-hmm. Donc, qui fait partie de notre histoire à nous, de nos valeurs, de ce en quoi on croit. Et, bien sûr, nos milieux à nous, l'Église et le contexte des Églises fait en sorte que nos valeurs sont tellement fortes que parfois qu'on se sent coupable pour tout et pour rien. Hein. Mm-hmm. On se sent coupable si j'arrive en retard à l'Église ou si je pars avant. Le joug peut être assez lourd, bien que Jésus, c'est pas ce qu'il voulait que l'on vive. Donc, il y a cette culpabilité qui est très subjective, dans laquelle on se fait pas de quartier, on ne se donne pas de chance, notre conscience est tellement fermée qu'on est toujours coupable de quoi que ce soit. Et il y a une culpabilité qu'on appelle objective, c'est-à-dire le fait... Bon, je vous donne un exemple. Je suis venu ici, j'ai pris l'autoroute. Au Québec, sur les autoroutes à quatre voies, c'est 100 km. Je confesse mon péché, je suis arrivé à 110 km. Donc, objectivement, je suis coupable. Mais... Si vous me posez la question, est-ce que je me sens coupable?
Non,
je ne me sens pas coupable. Mais je suis coupable. Maintenant, rassurez-vous tous les gens, là, je suis pas un chauffeur. Mais la réalité, c'est que parfois, on va être trop dur avec nous. Mais évidemment, il y a dans le passé des choses qu'on a fait parfois, qu'on regrette, qu'on n'aurait pas dû faire. Puis évidemment, il y a des gestes qui ont été posés parfois qui sont presque irréparables. On ne peut pas revenir en arrière et effacer ce qui s'est produit.
Et comment justement
se libérer? C'est justement, il faut identifier la source et développer une meilleure conception de la source, justement, de la culpabilité. Parfois, les gens se sentent coupables devant Dieu, bien qu'on ne voit pas Dieu culpabiliser les gens. Mm-hmm. Dieu, c'est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Jésus est venu pour cela, on en a déjà parlé. Et parfois, c'est le diable. Mais on sait que le diable, dans sa définition la plus simple, c'est l'accusateur. Mm-hmm. Donc, il va souvent tourmenter les gens, les réprimer, les écraser. Et c'est ce qu'il va faire avec le passé. Mm-hmm. Au moment où Dieu met le passé de côté, au moment où nous tentons de mettre le passé de côté, ben lui, il le ramène à la surface constamment. Et c'est ça qui vient nous asservir. Donc, il faut développer une meilleure conception de qui Dieu est, de ce que Dieu veut, et de remettre l'ennemi à sa place aussi. Il n'y a plus de pouvoir sur moi. Et aussi, je dirais, une meilleure conception de soi-même. Parce que souvent, on est plus dur avec soi-même que Dieu. Je dirais de la façon suivante. Souvent, on ne réussit pas à comprendre la grâce et le pardon de Dieu. La grâce, c'est gratuit, par définition, évidemment. C'est volontaire de la part du Seigneur. Dieu le fait parce qu'il nous aime. C'est l'expression active. Même on a un terme en français qui s'appelle actualisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se manifeste dans la réalité. C'est l'actualisation de l'amour de Dieu. Dieu, parce que Dieu m'aime, Dieu me fait grâce et Dieu veut me libérer. Je dirais que c'est le déploiement de cet amour-là. OK? Mais le problème, c'est que les gens qui résistent ou qui refusent de se pardonner, je dis souvent, c'est que... En fait, je pourrais le verbaliser de la façon suivante. Qui suis-je pour refuser de me pardonner quand Dieu lui-même m'a pardonné? Mm-hmm. Est-ce que je suis supérieur à Dieu? Est-ce que je suis au-dessus de Dieu? Si Dieu m'a pardonné, mm-hmm. pourquoi je ne me pardonne pas? Donc, à ce moment-là, il y a un élément un petit peu de soumission et d'accepter le fait que même si j'éprouve pas toujours la paix, mais au fur et à mesure que je vais grandir dans ma relation avec le Seigneur, mm-hmm. dans l'expérimentation de sa grâce, mm-hmm. plus ces événements vont nous quitter. Mm-hmm. Je termine avec un dernier point. Mm-hmm. Il faut juger le passé, et c'est ce que je vais dire à Christelle, il faut juger le passé à partir du passé, non pas à partir du présent. Mm. C'est facile, 5 ans, 10 ans plus tard, dire « j'aurais dû faire ceci, je n'aurais jamais dû faire ça, pourquoi je suis allé dans cette relation, pourquoi j'ai posé tel geste? » Il y a un contexte qui explique ça. Ça ne justifie pas, mais ça me permet de comprendre que parfois on fait des erreurs, des frasques de jeunesse, parfois malheureusement qui vont laisser des traces, mais il faut juger le passé, non pas à partir du présent, mais à partir du passé.
Mm. Merci, Denis. Excellente réponse, Christelle. Je crois que c'est plus que complet. Merci beaucoup d'avoir eu le temps de développer ce sujet. Et on va enchaîner avec toi, Denis, parce qu'on veut découvrir ce fameux livre que j'ai mentionné hier dans la rubrique Culture et Médias.
Alors, je présente le livre de Denis Morissette, Libre, Enfin Libre. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez vous le procurer sur le site libreenfinlibre.com. Et c'est un livre, on parlait de la transformation, on parlait des erreurs du passé, on parlait du changement. Et c'est un livre, Denis, que tu as écrit par rapport à ça. Et tout de suite, je vais aller d'entrée de jeu et te poser la question, parce que là, on voit bien sur cette belle illustration qu'il y a 12 petits oiseaux. Ouais. Parce que dans le livre, tu parles essentiellement des 12 étapes qui nous amènent vers la transformation. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire rapidement?
C'est un livre qui va offrir au lecteur quelque chose de pratique. Mm-hmm. La plupart des gens savent qu'ils doivent faire quelque chose pour changer, pour être transformés ou pour être libérés, mais ils ne savent pas comment faire le quoi faire. Ils savent quoi, mais ils ne savent pas le comment. Mm-hmm. Donc, ce sont une série d'étapes hyper pratiques que je rapidement, sans aller dans chacune des étapes, qu'on peut diviser en quatre grandes phases. Les trois premières étapes nous amènent à faire la paix avec Dieu, mm-hmm. de façon progressive, peu à peu, à faire la paix avec Dieu, modifier notre conception parfois malsaine de qui Dieu est, de comment Dieu nous voit. Les trois étapes suivantes nous amènent à faire la paix avec nous-mêmes. Ok? Mm-hmm. Je dis souvent la blague aux gens, est-ce que vous savez que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? Ce serait important d'être bien, d'être en harmonie avec soi-même. Mm-hmm. Les quatre étapes subséquentes nous amènent à faire la paix avec les autres. Là, c'est le rétablissement des relations, peu importe les conflits, parfois ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu ou ce qu'on a fait subir à des gens. Et les deux dernières étapes, on les appelle les étapes de maintenance. Okay. C'est là on sauvegarde tout cela et ça devient un mode de vie, un style de vie dans lequel constamment on met l'emphase sur à s'assurer d'être en paix avec le Seigneur, d'être en paix avec les autres, d'être en paix avec soi-même et ça devient un nouveau mode de vie. Donc, je vais en détail. Et j'ai utilisé un langage très, très, très intime. C'est comme si j'étais avec vous à la maison et je vous accompagne pas à pas au travers de chacune des étapes.
C'est ça qu'on se disait même avant l'émission. Le livre, il est beau, évidemment. Mmh. Mais moi, pour l'avoir aussi, toi aussi, tu l'avais regardé. C'est que c'est écrit très bien et c'est illustré. Il y a aussi des illustrations.
Ouais.
Et j'aimerais, Denis, te demander si, parce que je me rappelle qu'on a présenté des ressources en relation d'aide. Et ça, c'est des besoins qu'il y a dans l'Église. Des personnes qui sont là, qui ont des besoins, qui ont des détresses psychologiques, relationnelles, émotionnelles. Ce livre ici, il peut me servir en tant qu'individu.
Oui.
Mais les églises aussi peuvent s'en servir, en fait.
Oui, absolument. En ce moment, il est utilisé dans deux collèges bibliques aussi. Oui, qui font des formations en relation d'aide, un en France, un ici au Canada. Et toute église, parce que c'est ce qui est encore plus percutant avec les 12 étapes, c'est de les faire en groupe. Mm-hmm. Okay? Donc, j'ai même créé un manuel d'accompagnement pour faire des exercices où tout ça peut se faire en groupe parce que c'est une question de support mutuel. Et le groupe devient un peu comme une famille dans laquelle les gens sont redevables, mais aussi ils se supportent mutuellement et, parce que c'est pas évident le changement. Mais quand on est entouré, ça nous aide à persévérer et aller de l'avant jusqu'à la complétion
de tout ça. Et j'aimerais juste dire aussi que c'est, les non-croyants aussi peuvent se le procurer parce qu'on entend 12 étapes. C'est quelque chose aussi qu'on entend déjà dans le monde. Donc ça veut dire que c'est un livre qui c'est pas juste pour des chrétiens, aussi des non-croyants.
J'ai utilisé un langage, souvent en France, ils vont dire le patois de Canaan. Mm-hmm. Okay? C'est un langage chrétien que seuls nous pouvons comprendre. Mm-hmm. J'ai utilisé un langage plus universel, avec les mêmes vérités, les mêmes textes, même dans l'explication de certains versets bibliques que je vais donner, pour ne pas que ça crée une espèce d'effet d'aversion. Parce que les non-chrétiens, ils lisent pas des livres chrétiens. Mm-hmm. Ils vont lire des livres séculiers. Mm-hmm. C'est des chrétiens qui lisent. Mais moi, je fais le pari, c'est ma prière devant le Seigneur que ce livre-là puisse se trouver une niche un peu partout. D'ailleurs, en ce moment, les services correctionnels canadiens pensent à utiliser mon livre dans un contexte de prison et tout ça. Donc, à la grâce de Dieu, Seigneur, que tu sois glorifié et honoré dans tout ça.
Mais merci beaucoup, Denis. Ce livre, je le répète, il est disponible sur libreenfinlibre.com.
Merci beaucoup, Nadine, et merci, Denis. Et je disais à Nadine avant l'émission, c'est pas un livre qui s'est écrit en un mois sur un bout de table. C'est des années de travail, non seulement d'expérience, mais même de travail dans la rédaction.
Ouais.
Et c'est un outil qui est solide, qui est costaud, qui est profond. Je vais insister parce que y a toutes sortes de livres dans la vie, mais c'est vraiment un outil qu'on vous recommande vraiment. Et personnellement, j'ai hâte de le lire parce que je crois vraiment que ça peut être utile à tout un chacun.
Ouais.
Et tu as ce ministère que Dieu t'a confié vraiment pour accompagner les gens, pour aider les gens. Et en fait, pour moi, le fait de pouvoir l'avoir en livre, c'est un mini Denis qui se promène dans les maisons. C'est et c'est vraiment une
Denis portable.
Denis portable. Si vous voulez vous procurer un Denis portable, rendez-vous sur libreenfamille.com. Merci beaucoup.
C'est un plaisir. Denis, merci de votre invitation.
Avec une très grande joie pour moi. Grand plaisir. Merci beaucoup. Tu es le bienvenu. Tu le sais quand tu veux.
Merci.
Et ce livre, tu nous en avais parlé quand on avait fait l'After Inside il y a maintenant plus d'un an. Et il est là, il est sorti et on s'en réjouit. Eh bien, merci à vous tous qui avez été avec nous et nous croyons que vous allez pouvoir expérimenter cette véritable transformation. Et demain, nous voulons vous dire que Jésus-Christ veut vous rencontrer. C'est le thème qu'on va aborder et nous allons commencer comme une nouvelle étape dans la rubrique « C'est mon histoire », une petite saison spéciale avec les témoignages de papa Charles Talingano que vous aimez beaucoup sur la chaîne, on le sait. Et demain, il nous raconte son extraordinaire conversion. Je ne peux que vous recommander l'émission. Donc, on vous dit à demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.